Bible, la question de l'histoire est en fait absolument centrale, absolument fondamentale. Hein, la révélation chrétienne, c'est une révélation, en fait la révélation juive et chrétienne, parce que quand on parle de Moïse et des prophètes, on parle d'abord du peuple d'Israël, c'est une révélation dans l'histoire. Et c'est une question théologique absolument fondamentale. Quand on parle de l'histoire dans la Bible, c'est de la théologie absolument fondamentale. J'allais dire, je serais coupable de vous parler des textes bibliques sans ramener ces textes bibliques, surtout l'Ancien Testament, à l'histoire. Ça nous différencie, par exemple, pour parler de façon très, très générale, très grossière, de l'islam qui n'a pas cette dimension d'histoire, ou du bouddhisme, ou du... Voilà, il y a un rapport au temps, un rapport à l'histoire qui est différent. Mais dans le judaïsme et le christianisme, l'histoire est quelque chose d'absolument central. Et j'espère que vous arriverez à le comprendre. D'abord, j'en dirai quelques mots ce soir, et puis au cours de nos soirées sur les prophètes. Voilà. C'est de façon très concrète, tout l'Ancien Testament accompagne ou raconte une histoire. C'est tellement vrai que même la loi de Moïse, même les psaumes, même les textes de sagesse, on va dire que c'est atemporel la sagesse. Des sentences, des sages qu'on a un peu partout dans tout l'Orient, il n'y a pas besoin que ce soit situé dans une histoire. La Bible va le situer dans une histoire, va le raccrocher à Salomon. Les psaumes, on va les raccrocher à David, et non seulement à David, mais à des moments de la vie de David. Ça renvoie toujours à une expérience très concrète. Alors, c'est la loi de Moïse, des textes de loi, on va dire, la loi, elle vaut pour elle-même. Non, elle se ramène à une histoire. Plus d'ailleurs qu'on l'imagine. J'en ai parlé déjà il y a 2 ans, je crois. Mais les prophètes, par excellence, les prophètes doivent être situés dans leur contexte historique. Nous allons parcourir cette histoire. Alors c'est là que je vois qu'on va parcourir 1000 années et même 1800 ans en une soirée. Ça va être une charge de cavalerie. J'espère que vous êtes prêts que vous êtes bien sur votre selle, que vous tenez bien les rênes. Mais voilà, encore une fois, ne soyez pas étonnés, ça peut paraître austère. Je me suis même dit à un moment que je vous donnerai simplement le papier et que je vous parlerai d'autre chose et que vous aurez ça chez vous et que vous pourrez vous y référer en lisant les prophètes. Mais je crois que c'est bien de vous le présenter quand même oralement. Et puis, on aura l'occasion, j'en suis moins sûr, de revenir sur tel ou tel aspect. Voilà. Le plan de ce soir est simple, ça va être les prophètes à travers l'histoire et dans un deuxième temps, le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On peut dire que c'est la conclusion de l'introduction, la grande introduction qu'on aura faite sur 2 séances, va se conclure sur en quoi les prophètes nous intéressent-ils aujourd'hui. Alors, les prophètes à travers l'histoire. Je fais 3 grandes périodes schématiques qu'on peut avoir présentes à l'esprit. D'abord, de Moïse au schisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce schisme? Vous allez l'apprendre tout à l'heure. Ensuite, du schisme à l'exil, qui est une période très, très spécifique. D'ailleurs, vous verrez que c'est là qu'il y a le plus grand nombre de prophètes. Et ensuite, les périodes perses et grecques. J'ai mis en gras les périodes, quelquefois des prophètes, et en gras et souligné, les livres prophétiques. Donc, s'il n'y a pas d'erreur, vous devriez retrouver tous les livres des prophètes que vous avez dans vos Bibles, de telle sorte que vous puissiez les situer. Quand vous tombez sur un livre, vous dites « Ah, à quel moment, à quoi ça se raccroche ?» C'est un peu ça l'idée. Voilà. Quelquefois, je ne fais que évoquer, mais ça vous permet de voir cette grande fresque historique. Donc, en gras, c'est... Vous avez Élie, Élisée, il n'y a pas de prophète, mais il n'y a pas de livre, mais je les mentionne. Il y a des époques aussi, mais en souligné, vous avez les livres. Alors d'abord, de Moïse au schisme. Tout d'abord, un point, je rappelle ce que je vous avais dit déjà la fois précédente, sur l'émergence de la prophétie, l'émergence des prophètes. En Israël, la prophétie se démarque du prophétisme des nations païennes. Vous savez qu'il y a des prophètes à peu près dans tout, dans beaucoup de civilisations. Il faudrait donner des définitions un peu plus précises, mais voilà, on peut dire qu'il y a des prophètes un peu partout, et en Orient, il y a des prophètes qui sont connus, qui sont attachés au sanctuaire ou au roi, des sanctuaires des prophètes païens, et ils se veulent intermédiaires entre le divin et le peuple, et ils sont plutôt au service du peuple, hein, pour obtenir ce dont le peuple a besoin. Hein. Ce sont des prophètes de religion qui, par définition, sont idolâtres. Hein. Leurs interventions se font sur un mode extatique ou par des danses. Hein. Il n'en va pas ainsi en Israël. En Israël, on va retrouver quelque chose d'assez analogue à ces prophètes païens. On a des groupes de prophètes professionnels à qui on demande de prophétiser. Prophètes, hein, dis-nous ou dites-nous, parce qu'ils sont ensemble, si nous aurons la victoire. Hein, je vous avais raconté quelques histoires comme ça la fois précédente. Et les prophètes sont censés donner une réponse. En général, va plutôt dans le sens du poil, hein, de ce que voudrait le roi. Hein. Et si le prophète va dans le sens du poil, bah, il est très content, mais après, il vaut mieux qu'il s'en aille, parce que comme ce qui va se passer, c'est pas ce qu'il a dit, le roi va pas être content. Hein. Mais donc, je pense qu'il devait être très habile. Hein. Alors, les prophètes d'Israël, c'est pas comme ça que ça se passe. Les prophètes vont sortir de ces groupes, même s'il y en a quelques-uns au tout début de la prophétie, ce qui constitue le prophète, c'est l'appel de Dieu. Et là, on va voir en effet des heurts entre les prophètes d'Israël et les confréries de prophètes. Parce qu'ils ont pas, les prophètes d'Israël, souvent, ils ne sont pas prophètes professionnels. Ils disent, c'est Dieu qui m'a appelé. Alors, avant de voir arriver ces prophètes, je mentionne Moïse. Moïse, vous allez me dire, il est législateur. C'est lui qui a donné la loi. Moïse est prêtre. Celui qui donne la loi, c'est un prêtre, et Moïse est de famille sacerdotale. Mais Moïse est aussi prophète, le prophète par excellence. Hein. Il ne s'est trouvé en Israël aucun prophète semblable à Moïse. Hein. Deutéronome 34, la fin de tout le Pentateuque. On le présente comme prophète. Il a donné la loi de Dieu, la Torah, ça tout le monde le sait, au Sinaï. Ça, donner la Torah, donner la loi, donner une loi, c'était le travail des prêtres. Donc là, c'est en tant que prêtre qu'il a donné la Torah. Mais il est allé plus loin parce qu'il a montré comment la Torah agissait, était opérante. Et ça, c'est le propre du prophète, hein, de montrer comment la parole de Dieu est opérante. Je vous rappelle que la loi, c'est pas uniquement le code civil ou un corpus de loi, la loi en Israël, la Torah, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. Hein, c'est la même chose. Le mot Torah se rapproche plus de parole que de loi. Hein, c'est très important de le comprendre. Moïse qui donne la Torah, comme un prêtre, il va dire « voilà les prescriptions du Seigneur », mais comme un prophète, il dit « ces prescriptions, il faut que vous les mettiez en pratique, il faut qu'elles soient opérantes ». Et on va le voir à travers toute sa personne, il va s'engager, comme le font les prophètes, hein, il s'engage jusqu'à souffrir et être au bord de la rupture, de la mort, hein, dans certaines situations, tellement il s'engage pour cette parole. J'ajoute aussi que selon la tradition juive, hein, dans un texte qu'on appelle les Pirkei Abot, hein, les sentences des pères, c'est un texte très, assez important dans la tradition juive, Moïse a transmis directement la loi au prophète. Hein. Moïse a transmis la loi au prophète, voilà, et puis les prophètes à l'assemblée d'Israël. Donc il a joué ce rôle très important dans la prophétie. Alors on passe rapidement, il y a l'arrivée en Canaan, l'époque des juges, hein, 12e, 11e siècle, il y a des prophètes et des juges qui ont un caractère guerrier, avec d'ailleurs des femmes prophétesses aussi, Déborah, hein, que vous connaissez, hein. Et puis, voilà, Gédéon, hein, leur rôle, eh bien, c'est au milieu du peuple, à la fois de juger, mais aussi de rappeler l'absolu de Dieu. Hein, on voit déjà le rôle du prophète qui rappelle l'absolu de Dieu. Hein. C'est Samuel qui est vraiment celui avec lequel commence la prophétie. Hein, Samuel, on connaît l'appel de Samuel, hein, c'est Dieu qui l'a appelé Samuel, Samuel. Hein. Me voici, parle Seigneur, ton serviteur écoute. On connaît bien cette histoire. Alors Samuel joue un rôle qu'il faut bien avoir présent à notre esprit. Là, je vous ai dit d'abord l'émergence des prophètes au milieu des confréries. Voilà. Deuxièmement, on a dit un mot sur Moïse, son rôle par rapport à la Torah. Il y a une période un peu incertaine, un peu où les choses ne sont pas encore organisées, où il y a des juges et des prophètes qui interviennent au milieu du peuple. Samuel va accompagner les débuts de la royauté, et la royauté va être fondamentale pour comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Parce que Israël veut s'organiser comme peuple, et Israël demande un roi. Et Samuel va jouer cette fonction critique. À la fois, il va accompagner le peuple, mais en ayant cette fonction critique. Et ça, ce sera une caractéristique de la prophétie, avoir toujours cette fonction critique par rapport aux volontés politiques du peuple. Et c'est normal qu'un peuple veuille s'organiser, qu'un peuple veuille avoir une stabilité. Vous voyez, c'est des problèmes qui datent pas d'aujourd'hui. C'est tout à fait légitime, c'est même nécessaire. Mais dans le cas d'Israël, il y a une particularité, c'est qu'Israël a déjà un roi. Israël sait déjà quelle est sa constitution, si on peut dire. Sa constitution, c'est la Torah de Moïse. Son roi, c'est Dieu. Israël est un peuple sacerdotal. Alors Israël voit les nations païennes et aimerait bien être comme les nations païennes. Oui, mais tu es un peuple mis à part. Lisez Deutéronome chapitre 7, Israël a été mis à part. Israël a été mis à part pour sanctifier le nom de Dieu et témoigner de la sainteté de Dieu dans le monde. Et ça, Israël a du mal à assumer cette fonction. Israël voudrait être comme les autres nations. Et donc, Israël demande un roi. Et Samuel met en garde en disant, attention, il y aura des impôts. On prendra vos fils pour aller faire le service militaire et aller faire la guerre. Vos filles seront employées à la cour du roi. Vous aurez toutes sortes de problèmes. Donc Samuel met en garde, mais il va accompagner le mouvement. Donc on voit arriver Saül et ensuite il y aura David. Mais déjà il y a cette instance critique dont Samuel est le témoin. Voilà. Alors, on entre dans cette grande période de la royauté. Avec Saül, c'est un échec, puis David, qui d'ailleurs aura des traits prophétiques dans le Nouveau Testament. Mais David va exercer la royauté en ayant à côté de lui des rois, des prophètes Gad, Nathan, etc. Nathan qui va jouer un rôle très très important. On aurait pu passer une soirée sur Nathan, très très intéressant, l'histoire de, vous savez, la petite brebis. Une histoire très touchante, pas le temps de la raconter ce soir, mais ça c'est typiquement le prophète qui va faire entendre quelque chose au roi que le roi est incapable de comprendre d'emblée. Il faut une parole extérieure percutante qui lui touche le cœur. Voilà. Donc David accompagné par un prophète. Alors Salomon est intéressant parce que c'est un roi, c'est même un roi idéal. Il y a en lui certains traits de sainteté, de perfection. Il poursuit l'œuvre de David, c'est un roi sage, il va gouverner le royaume d'Israël avec sagesse, il demande à Dieu la sagesse, donc c'est très bien, bravo Salomon, ta sagesse c'est pas uniquement ta propre intelligence ou ta propre science, tu as demandé la sagesse auprès de Dieu, mais cette sagesse tu vas tellement la faire tienne que tu vas t'en satisfaire, et Salomon va gouverner son royaume avec sagesse, et d'une certaine manière, il va s'endormir. Et il n'a pas de prophète auprès de lui. Par certains côtés, il dit qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin parce que ça fonctionne. Jamais le royaume n'a été aussi beau qu'avec Salomon. Le royaume, il y a même les rois qui viennent des pays étrangers, souvenez-vous de la reine de Saba, ils viennent admirer Salomon, et Salomon a de la science, et son royaume est bien organisé. Quand on va en Terre Sainte, on voit les écuries de Salomon à Megiddo, on voit comment le royaume était organisé, il construit des villes. Il règne avec sagesse, et il n'y a pas de prophète. Salomon, c'est une période où il n'y a pas de prophète. Eh bien, ça lui manque. parce qu'il devient aveugle. Il n'a plus cette instance critique qui lui fait toc-toc-toc à l'épaule, qui dit « Hé, t'as pas oublié que c'est Dieu qui est le vrai roi et que tu peux pas faire n'importe quoi. Hein, » Moi, quand j'ai compris le rôle du prophète, je me suis imaginé toujours un roi avec quelqu'un qui est derrière lui et qui fait toc-toc-toc-toc à son épaule et hey, « réveille-toi hein. !» Le rôle du prophète, c'est d'avoir ses petits doigts comme ça qui tapotent sur l'épaule en disant « N'oublie pas la parole de Dieu ». Et à ce moment-là, on sort de cette espèce de torpeur quand tout va bien. « Ah oui, attention, je suis en train de... » Voilà. Et ça ne va pas manquer. Eh bien, son cœur va un peu s'endormir et il va, en épousant la fille de Pharaon, il va faire entrer le culte des idoles. Et c'est assez dramatique parce que Salomon le Sage, qui encore une fois est une figure, c'est une figure ambivalente, une figure positive. Jésus est présenté comme un nouveau Salomon et en même temps présente Salomon comme celui qui a introduit le péché, introduit l'idolâtrie. Et aussitôt après sa mort, eh bien, puisque le péché est entré dans le peuple d'Israël, dont David avait fait l'unité, eh bien, le royaume va se disloquer. C'est l'assemblée de Sichem en 930 avant Jésus-Christ. Sichem, c'était le lieu de l'alliance, où Israël avait renouvelé l'alliance en arrivant en terre promise. Sichem, ça va être le lieu de la rupture d'alliance. Vous voyez, au lieu même où l'alliance a été conclue, Salomon a oublié d'écouter les prophètes. Salomon a laissé entrer l'idolâtrie et le diviseur fait son œuvre. C'est une scène dramatique. Alors ça va être capital dans l'histoire de la prophétie. Là, je vous ai décrit comment il y a le début de l'institution royale avec le rôle du prophète, qui est toujours un peu derrière l'épaule du roi. Maintenant, on va voir pendant la royauté avec cette division entre d'un côté le royaume du sud, le royaume de Juda, avec Benjamin autour de Jérusalem, le royaume qui est héritier de David. C'est juste une tribu, et puis une petite tribu, Benjamin, et puis toutes les tribus du nord qui se disputent avec Juda et qui vont constituer le royaume de Samarie. Et la prophétie, ça va être une période où les prophètes vont beaucoup intervenir puisque la royauté aura beaucoup de difficultés. Nous arrivons au deuxième moment du schisme à l'exil. Alors pour les dates, je n'ai pas mis énormément de dates, mais vous avez les principales. Moïse, traditionnellement, on dit que c'est le 13e siècle avant Jésus-Christ, on ne va pas rentrer dans les discussions. Voilà. Samuel, on est autour de l'an 1000. David, l'arrivée de David qui prend Jérusalem à cette époque-là. Salomon, on est à 930, la mort de Salomon à 930. Le schisme, donc, c'est autour de 930. Il y aura donc désormais deux royaumes. Le royaume du sud est autour de Jérusalem, autour du temple, ce qui entre nous ne garantit pas la sainteté du peuple. Ceux qui habitent à côté de la cathédrale Notre-Dame ne sont pas assurés d'être plus pieux que les autres. Voilà. Ah, mais j'habite à côté de la cathédrale. D'accord. Très bien. Peut-être pas suffisant. Voilà. Donc, ils sont près de Jérusalem. Et c'est vrai que on voit bien dans la Bible, dans l'Ancien Testament, comment le peuple, les Judéens, sont censés être plus religieux. Mais ce ne sera pas sans difficulté. Le nord, pour le coup, est loin du temple, loin de la ville sainte. Et le nord, en plus, pour des questions géographiques, le nord est la Galilée. Si vous ne connaissez pas, allez en Terre Sainte. Vous comprendrez très bien. Voilà, la meilleure manière de faire. Vous vous souvenez, ceux qui sont là en Terre Sainte, la Galilée, quand on arrive en bus, en général, de l'aéroport, on va vers Nazareth, il y a toujours un moment où je vous dis, regardez autour de vous, on voit le mont Galboé, on voit, c'est un des meilleurs moments de la Terre Sainte, on voit toutes les montagnes où il s'est passé des scènes de l'Ancien Testament. Et on est dans la plaine de Israël. Ça vous dit quelque chose? Je vois que Feria est liée, là, en ce moment. Elle est en train de vibrer à Israël. Voilà. Et quand on continue la plaine de Israël, en plus, c'est une terre très fertile. Donc on voit bien comment l'idolâtrie peut arriver, hein, le goût de gagner, etc. On continue, on va vers la côte et on arrive dans un très beau pays, mais pardon, Ferial, mais qui était un pays païen, hein, c'est le Liban. Hein, et le Liban, c'était les païens et c'était, c'est ce qu'on appelle les civilisations cananéennes. Hein, et il y aura cette confrontation entre le peuple d'Israël, les tribus du Nord, hein, qui sont coupées de Jérusalem, et le côté très attirant, hein, de ces divinités cananéennes qui vont imprégner la pensée des bons paysans de la plaine de Israël. Hein, les paysans, les agriculteurs, hein, moi je viens de la campagne, donc je vois bien comment les choses se présentent. Quand on va au comice agricole, on essaie de regarder là où il y a les produits qui vont donner le meilleur rendement. Hein. Et ben, du côté des divinités cananéennes, ils vont dire tu devrais essayer le dieu Baal, hein, pour faire pour les petites vaches. C'est le dieu Baal, il est très fécond. Hein. Et puis il y a Dagan, hein, c'est le dieu de le blé, hein, qui pousse. Ben, si tu veux avoir des bons rendements en blé, hein, 110 kilos, 110 quintaux à l'hectare, hein, Dagan, c'est un bon dieu, hein, c'est un dieu qui est efficace. Hein. C'est un peu comme ça que ça marche, hein, au comice agricole de Beth-Shean ou de je sais pas où. Hein. Pardon, je raconte un peu des histoires, mais ça devait ressembler quand même à la réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très pratique, hein, pour les Israélites. Ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. On a le dieu d'Israël, hein, Yahvé, voilà, mais on a quand même la possibilité d'un rendement supérieur dans notre production, donc on ne va pas se priver. Hein. Et c'est là que les prophètes arrivent en disant, attention, là vous êtes en train de vous perdre, hein, l'alliance avec le Dieu d'Israël, vous êtes en train d'oublier cette alliance. On va voir arriver, alors le prophète, la première grande figure prophétique, je vous ai dit que Moïse est plutôt une figure assez idéal, mais le prophète qui intervient comme prophète, c'est Élie. Hein. Voilà. On voit surgir Élie, donc on est au milieu du 8e siècle après Jésus-Christ, donc avant Jésus-Christ, donc on est dans cette période de, je vous ai dit, où il y a le schisme entre le Nord et le Sud, cette imprégnation du paganisme cananéen, les divinités cananéennes, qui sont des divinités rurales, hein, qui intéresse beaucoup les habitants des tribus du Nord, et Élie, hein, surgit, hein, sa parole était brûlante comme une torche. Il faut regarder l'histoire d'Élie, la manière dont Élie arrive, c'est tout à fait saisissant, absolument magnifique. Hein. Il n'a laissé aucun écrit, et quand on a l'impression qu'il est à un endroit, ben, il est déjà à l'autre, hein, et quand le roi le voit, on n'est pas du tout dans les discours convenus, hein, qu'on apprenait à la cour de Salomon, hein, où on était dans la sagesse, avec beaucoup de politesse. Avec Élie, c'est « Te voilà, toi, le fléau, la crapule, hein, le désastre d'Israël hein. ». Et Élie lui répond à peu près dans le même ton. Hein. Donc voilà la tonalité du prophète qui dit la vérité. Hein. Élie va rappeler vigoureusement à Israël son alliance avec le Dieu unique, avec son cœur qui brûle. Hein. « Je brûle d'un zèle jaloux ». Hein, pour le Seigneur. Hein. Il est vivant le Seigneur, hein, qui m'a envoyé. Voilà. Élie et Élisée. Hein. Il faut garder cette idée aussi qui est très marquante dans la prophétie de la parole libre, la parole percutante, la parole qui, un peu comme le sel qui empêche l'eau de geler. Voilà. Salomon, il manquait le sel. Voilà. Élie et Élisée. Hein, le côté itinérant. C'est important de le garder dans notre tête, parce que quand on parlera de Jésus, Jésus a les traits de Élie. Hein. Ça, je m'en veux un peu pour l'an passé, j'ai une petite parenthèse pour ceux qui ont suivi le cours sur les figures. Sûrement une des plus grandes figures de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est Élie. Et j'ai fait l'impasse sur Élie. On ne pouvait pas tout faire. Mais il y a dans cette parole percutante et insaisissable, voilà, il y a quelque chose de très très fort chez Élie, qui marque la prophétie. Voilà. Alors, il faut bien se dire que cette infidélité, cette tentation de l'idolâtrie, elle va marquer toute cette période, 9e, 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, cette période de la royauté, où le royaume du Nord et le royaume du Sud s'opposent l'un à l'autre. Hein, évidemment, le diviseur a fait son œuvre. Voilà, on arrive au... Alors, Élie et Élisée, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Le siècle suivant, hein, on est dans un contexte d'infidélité religieuse croissante. Hein. Il va y avoir également de graves problèmes politiques. Hein. Et les prophètes qui vont intervenir avec encore plus de force. Alors, il y a les prophètes du Nord et les prophètes du Sud. Je vais d'abord vous parler des prophètes du Nord, parce que le Nord, les problèmes étaient très compliqués, bien sûr avec le paganisme dont je vous ai parlé, mais aussi des problèmes de militaires, des problèmes de guerre, des problèmes d'injustice sociale, hein, que Amos et Osée vont dénoncer avec beaucoup de force. Et les problèmes sociaux, vous allez dire, ah ben voilà, le père Henri, il fait comme tous ceux qui ramènent tout au niveau social, au niveau horizontal, on en a assez, ce qu'on veut, c'est du vertical, c'est Dieu. Ouais. Mais quand les prophètes interviennent au niveau social, c'est parce que ceux qui agissent de manière injuste contreviennent au commandement du Seigneur, hein, qui demande de prendre soin de la veuve, de l'orphelin et du pauvre, parce que tout le peuple est appelé à participer à une même alliance, et il n'est pas question qu'il y en ait qui reste à l'écart. Hein. Et donc, c'est l'œuvre même de Dieu qui est contredite par l'injustice des rois d'Israël. Hein. Donc, il y a bien le problème de l'idolâtrie, mais aussi de l'injustice sociale, qui sont abordés par les prophètes. Alors, Osée et Amos. Osée qui va s'engager dans toute sa personne avec ce mariage un peu étonnant avec une femme soit prostituée, soit adultère, ça dépend comment on l'interprète. Et puis Amos, hein, qui est typique de ces prophètes qui ne sont pas des prophètes professionnels. Hein, quand le roi, la cour du roi dit, mais il nous casse les pieds cet Amos là, à nous faire la leçon. Amos, t'es bien gentil, mais tu vas faire tes prophéties chez toi. Tu vas prophétiser chez toi. Vous voyez, avec toujours l'idée qu'il y a les prophètes professionnels. Et là, Amos, il est très fort, parce qu'il dit, attends, il est à la cour, il y a le roi qui est sur son trône, il y a tous les conseillers qui disent, en d'autres termes, fiche le camp. Voilà. Alors, Amos, il dit, attendez, c'est pas moi qui ai demandé à être ici. Moi, j'aimerais bien pas être ici. Moi, je suis pinceur de sycomore. Je ne sais pas trop ce que c'est que pinceur de sycomore. Alors, il pince les sycomores, voilà. Au moment de la, je sais pas quoi, de la floraison, des choses comme ça, voilà. Il dit, moi, je suis pinceur de sycomore. Et si je pouvais être à la ferme, je vous assure que je serais beaucoup plus content. C'est le Seigneur qui m'a envoyé. Voilà. Et ce que j'ai à vous dire, ben, je vous le dirai. Hein. C'est Amos qui dit, quand le lion a rugi, tout le monde a peur. Eh bien, le Seigneur a parlé. Eh bien, tout le monde va écouter. Voilà, ça, c'est Amos. Hein. Donc, c'est la parole percutante du prophète. Amos et Osée. Voilà. Les interventions des prophètes ne sont pas entendues. Hein. Alors, il y a des épisodes très douloureux, d'autant plus douloureux qu'ils sont souvent assez stupides. Il y a notamment cette guerre qu'on appelle la guerre syro-éphraïmite. Hein. Alors, ça ne veut pas dire la guerre entre les Syriens et Éphraïm. Éphraïm, c'est Israël. Éphraïm, c'est le royaume du Nord. Hein. C'est plutôt les Syriens et les Éphraïm, Israël, qui se coalisent contre Jérusalem, hein, pour mettre un roi qui leur plaît, mais ils font des bêtises, ils sont vaincus par les Assyriens, et quelques années après, les Assyriens prennent Samarie, 721, hein, c'est une date importante, avant Jésus-Christ. Donc c'est la fin du royaume du Nord. Les prophètes qui prophétisaient au Nord, qui disaient « le péché vous entraîne, votre péché vous entraîne à la catastrophe », de fait, Samarie tombe en 721. Et c'est... En essayant de retracer cette histoire, une histoire absolument tragique, parce que c'est une déportation qui a été absolument sans suite. Autrement dit, les habitants des rois des tribus du Nord ont été emmenés en Assyrie. Les Assyriens, c'était une civilisation très raffinée, mais aussi très cruelle. Et on n'en parle plus après. Il n'y a pas eu de retour dans le royaume du Nord. Ça a été très très violent. Donc ils ont été amenés. Alors quelques-uns ont pu rester, qui se sont réfugiés à Jérusalem. Il y a eu un afflux des réfugiés du Nord qui vont agrandir la ville de Jérusalem. Mais ça a été un choc assez terrible. C'est l'époque où les Assyriens vont peupler la région avec leurs idoles. La femme de Samarie, la Samaritaine. Justement, ça se passe à Sichem, le lieu de la rupture d'alliance. Et quand on dit « tes cinq maris », La Bible nous dit qu'il y a eu cinq peuples avec leurs idoles. On peut penser que ce sont les cinq idoles que les Israélites du Nord ont fini par adopter. Voilà. Voilà pour le Nord, ça se termine de façon lamentable en 721. Et il y aura toujours, à partir de là, en Galilée, on parle de la Galilée des nations, à l'époque de Jésus, il y a toujours ce mélange. Puis la Samarie, qui est plus ou moins qui est hérétique, hétérodoxe. Enfin, c'est des régions qui ont pâti finalement de ces grosses bêtises. Notamment des rois qui n'ont pas bien compris leur mission, mais aussi du peuple qui était gagné plus ou moins au paganisme. Alors, nous voyageons vers le sud, et on va y rester un bon moment. Au sud, à la même époque, vous avez le grand Isaïe, très connu, mais, comme vous l'avez remarqué sur la feuille, j'ai mis Isaïe 1,39, parce que l'époque, le texte, le livre qui nous renvoie Isaïe, c'est chapitre 1 à 39. Après, c'est beaucoup plus tardif. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. Et Michée, Michée de Maréchat. Le tableau n'est pas très brillant non plus dans le sud, mais il est moins sombre. Il va y avoir quelques rois qui vont essayer de se souvenir de la loi de Moïse, de la parole du Seigneur. Il y a un premier roi très marquant, qui est un saint roi qui s'appelle Ézéchias, qui entreprend une réforme religieuse, la réforme d'Ézéchias, qui rappelle le culte du Dieu unique au temple de Jérusalem, qui supprime les hauts lieux. Voilà. Isaïe se fait l'écho de la réforme d'Ézéchias. Il y aura un roi un peu équivalent à Ézéchias, un siècle plus tard, qui va entreprendre une réforme encore plus forte, après qu'on ait retrouvé les rouleaux de la loi au temple, une date très importante, 622 avant Jésus-Christ. Alors la mise en scène est absolument magnifique. Quelqu'un vient trouver le roi, les prêtres viennent trouver le roi, en disant sire, ou je sais pas, majesté, nous avons trouvé quelque chose de très impressionnant. Quoi ? La loi de Moïse. Voilà, c'est la loi de Moïse, elle était cachée au temple. Ce qui veut dire. Tout le monde l'avait complètement oublié. Alors le roi, mais c'est très important ce que vous dites là. Qu'est-ce qui est écrit dedans ? Alors on lit la loi de Moïse, tout le monde se met à pleurer, et le roi se dit, on va pratiquer la loi de Moïse. Voilà, manière de réveiller le peuple, c'est assez génial. On a retrouvé la loi de Moïse, ça veut dire on l'avait complètement oublié, on va la mettre en œuvre. Alors c'est ce qu'on appelle la réforme de Josias, qui est un grand moment spirituel dans l'histoire d'Israël. Il s'agit d'obéir à la loi, et pas uniquement de façon extérieure, mais de façon intérieure. C'est la réforme de Josias, on met en parallèle ce qu'on appelle un courant qu'on appelle le courant deutéronomiste. Deutéronomiste. Deutéro, ça veut dire deuxième, la deuxième loi. La loi a été donnée à quel moment ? Où ça ? Allez, c'est au Sinaï. Voilà. Et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Moïse. Voilà, Moïse. Moïse va accompagner le peuple jusqu'à quel moment ? Jusqu'à Jérusalem ? Jusqu'au Jourdain. Donc au seuil. On est au seuil du Jourdain. Et est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé juste avant la mort de Moïse, juste avant la fin de. Il y a eu quelque chose de très très important.
Il voit la terre sainte, mais il sait qu'il n'y rentrera pas.
Il sait qu'il n'y rentrera pas. Et il énonce de nouveau la loi qui a été donnée. Deutéro, deuxième, nomos. Alors, c'est une fiction, parce que le deutéronome, on le date beaucoup plus de cette époque, du 7e, 6e siècle. Ouais. Mais il y a cette idée que Moïse a dit au peuple, voilà, Dieu vous a donné la loi au Sinaï, maintenant que vous allez entrer en terre promise, je vais vous redire cette loi, et cette loi elle va entrer dans votre cœur. C'est Deutéronome commence par « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton cœur de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. » Le Deutéronome, c'est la réforme qui est centrée sur le cœur. Alors, une bonne fois pour toutes, et je crois que je vous l'ai dit dans les mêmes termes il y a l'an passé ou il y a 2 ans, chassez de votre tête l'idée que le judaïsme et l'Ancien Testament, c'est le Dieu de justice, verticale, vengeur, etc. La loi d'amour, elle est énoncée par les prophètes. La nouveauté du Nouveau Testament, c'est que l'Esprit Saint va nous permettre de la mettre en œuvre. Mais aimer Dieu de tout son cœur, d'ailleurs Jésus, quand il nous donne, il nous dit que c'est le commandement principal d'aimer Dieu de tout notre cœur, il le reprend en Deutéronome. Donc la loi du Deutéronome, il y a bien un appel au cœur. Et c'est en même temps Deutéronome, parce que ce n'est pas une autre loi, ce n'est pas une deuxième loi, c'est la même loi, mais qui est relue dans sa profondeur. Cette loi, tu vas la mettre en pratique. C'est dans le Deutéronome aussi où il est dit « Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises où est-elle, la parole de Dieu. » Non, elle est tout près de ton cœur. Vous avez des écrits spirituels dans l'Ancien Testament extraordinaires. Et vous avez lié à cette réforme de Josias, un prophète qui est vraiment le prophète du cœur, le premier prophète du cœur, il y en aura d'autres, c'est Jérémie. Jérémie. D'ailleurs, assez proche d'Osée, Osée, chapitre 6, déjà, Osée parlait du cœur, de l'amour, le thème de l'amour, et Jérémie va le pousser encore plus loin. Jérémie, c'est celui qui, le premier, énonce, ou annonce, qu'il y aura une nouvelle alliance. Non plus comme l'alliance gravée sur la loi, mais cette alliance, elle sera gravée dans le cœur. Le mot cœur est central chez Jérémie, dans le Deutéronome. La loi sera gravée dans le cœur. Vous voyez que le Nouveau Testament, ce n'est pas une séparation avec l'Ancien qui serait mauvais, avec un Dieu vengeur ou de justice. Non, c'est le Nouveau Testament, c'est Jésus qui accomplit la loi et qui nous donne l'Esprit. Mais dans la continuité des prophètes. Et spécialement Jérémie, Jérémie chapitre 31, qui dit de la spiritualité de cette loi. Oui.
Non, parce que je lis deuxième loi, c'est la deuxième fois qu'elle est dite, mais c'est la même loi. C'est
pas une le mot deutéronomos, deuxième loi, en tant qu'elle est réécrite. Oui, c'est un peu comme que c'est Origène qui dit nouvelle alliance, on va dire, il y a l'ancienne alliance, la nouvelle, il dit en fait c'est la même alliance, oui. Mais renouvelée. Voilà, c'est l'alliance renouvelée. C'est le même sens, il faut comprendre que c'est l'alliance renouvelée. Sans ça, on est ce qu'on appelle martionnite. Martion, il dit, on abandonne l'Ancien Testament, on abandonne le peuple juif. Non, l'Église, la première hérésie que l'Église a condamnée, c'est au IIe siècle, elle a condamné Martion, qui voulait rejeter le judaïsme. Ça, le XXe siècle nous a permis de retrouver le judaïsme, et tant mieux, parce que les juifs nous rappellent l'absolu de la sainteté de Dieu. Que les chrétiens, ils prennent leurs aises. Ils disent, maintenant, c'est avec Jésus, c'est la liberté, il n'y a pas de problème. les juifs, ils disent non. Le nom très saint de Dieu, qu'on ne prononce pas, parce qu'il est imprononçable. Merci les juifs de nous le rappeler. Ils ont raison de nous rappeler la sainteté de Dieu. Ouais. Donc, il y a une continuité. Mais évidemment, la nouveauté avec Jésus, c'est que cette loi, maintenant, elle va être gravée dans les cœurs. C'est l'Esprit Saint. La nouveauté, c'est l'Esprit. En fait, la nouveauté, elle n'est pas dans le livre. Elle est dans l'Esprit Saint. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est vraiment neuf, qui fait toute chose nouvelle. Mais l'Esprit Saint est répandu depuis la Pentecôte, vous voyez. Donc, il faut bien comprendre l'importance de cette loi de Deutéronomie, de cette réforme avec Jérémie, qui annonce la loi gravée dans les cœurs. Je mentionne également Sophonie qui intervient à cette époque. Voilà. Alors, malheureusement, la réforme est brisée dans son élan. Alors, ça, c'est encore un choc. Vous voyez, je vous dis, ce soir, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Mais vous avez vu toute l'importance de cette réforme religieuse. Josias, le saint roi Josias, est tué de façon incompréhensible, enfin un peu compréhensible quand même, à Megiddo. Allez en Terre Sainte pour voir où est Megiddo. On passe par Megiddo quand on va vers la Galilée. Il est tué par le pharaon Nécao. Et là, on ne comprend plus. Parce que normalement, dans la vision biblique, quand quelqu'un obéit à la loi de Dieu, il est béni, il doit vivre. Pourquoi meurt-il? On se met à réfléchir sur le mystère de la mort du juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Alors là, c'est le début de la dégringolade. Il y a une série de malheurs qui va s'abattre sur le royaume de Juda, qui avait échappé à l'invasion assyrienne en 700 avant Jésus-Christ. Là, il va y avoir des problèmes politiques. Alors je vous renvoie à Habacuc, à Abdias. on apprend que la ville de Ninive tombe. Donc Ninive, c'était les Assyriens qui avaient emmené en exil le royaume de Samarie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les Assyriens. Ils vont être remplacés par une civilisation assez équivalente, qui sont les Chaldéens. Ça vous dit quelque chose? Chaldéens, un Nabucodonosor. Tout le monde connaît Nabucco. Voilà. Nabucco, c'est ça. Nabucodonosor. Voilà. Et donc, une civilisation extrêmement puissante, plutôt assez poussée au niveau culturel. Et évidemment, le tout petit royaume de Juda, ils vont essayer de le mater en 598. Premier exil. Ils emmènent l'élite de Jérusalem, dont le roi. Ils mettent le roi Joïakin et ils mettent à la place un roi, un petit roi très faible, l'oncle du roi qui s'appelle Sédécias. Ils amènent aussi Ézéchiel. Ézéchiel ira prophétiser à Babylone, mais après des erreurs politiques faites par Sédécias, les Chaldéens reviennent à Jérusalem, ils prennent la ville, ils détruisent le temple, et là ils amènent toute la population en laissant juste sur place quelques ouvriers, quelques paysans pour que les vignes puissent continuer de donner du raisin et que les bêtes puissent, les vaches puissent être traites, mais rien de plus que ça. Donc c'est vraiment l'exil et c'est un drame absolu pour Jérusalem, parce que jusqu'à présent, la Terre Sainte, Israël, c'était le don de Dieu, le don de l'Alliance, et ce don est retiré. Et Israël se dit, tout est fini. C'est au temple de Jérusalem qu'on loue Dieu. Il n'y a plus de temple. Est-ce qu'on peut encore louer Dieu? Voilà, et les prophètes qui rappelaient au peuple, qui disaient, attention, si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez vers la catastrophe. On n'a pas écouté Dieu. Eh bien, encore Jérémie, qui dit au roi, tu es en train de faire des alliances mauvaises. Accepte l'exil, tu n'y échapperas pas. Ce sera un temps de renouveau spirituel. Le roi, écoute un peu Jérémie, mais malgré tout, il ne suit qu'à sa tête, et à la fin, c'est l'effondrement. Alors là, c'est pas simplement, comme la mort de Josias, une réflexion sur la mort du juste, c'est une réflexion sur la mort tout court, parce que le peuple est dans une situation de mort. Enfin, le peuple, voilà, c'est la période de l'exil qui est sûrement le grand moment, on va dire, les deux grands moments de l'histoire d'Israël, c'est la sortie d'Égypte, mais c'est aussi l'exil. C'est le grand creuset de la grande épreuve spirituelle où Israël va être amené à reprendre toute son histoire. Nous arrivons aux périodes perses et grecques. 587, c'est la prise de Jérusalem, c'est l'exil à Babylone. Voilà, 587, cette date, mais je pense que beaucoup d'entre vous la connaissez déjà par cœur. Voilà, Jean, je vous interrogerai à la fin. Voilà, je sais que, mais je crois que Jean connaît bien la date. Alors, voilà, on est en exil. Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir tous les questionnements qui vont être posés à ce moment-là. L'exil à Babylone dure 49 ans, épreuve dramatique, mais aussi temps de renouveau spirituel. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Ézéchiel a vu la gloire de Dieu. Ézéchiel se transporte à Jérusalem et il a vu la gloire de Dieu quitter le temple et accompagner le peuple en exil. Très intéressant. Ça veut dire que Israël se rend compte que finalement le temple, il est déjà, c'est déjà une figure du temple de Dieu, pas uniquement le temple de pierre. Voilà. Alors, là aussi, ça mériterait non seulement une soirée, mais une année complète sur la période de l'exil, qui est une période passionnante de réflexion théologique de la part des prophètes. On parle des prophètes de l'exil, mais on n'a pas le temps de le faire. J'arrive tout de suite à la fin de l'exil. Alors, les prophètes de l'exil, il y a bien sûr Ézéchiel, qui est parti à Babylone, et puis un autre prophète très intéressant, qui est intégré dans le livre d'Isaïe, qu'on appelle le Deutéro-Isaïe. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire, Deutéro-Isaïe.
Deuxième,
bravo. Alors, tout de suite, là, il veut avoir des points supplémentaires. C'est vous qui lui avez dit, non? Voilà, le deuxième Isaïe. Alors, c'est très intéressant, parce qu'on le date très précisément de 539. On sait que Cyrus, le Perse, là, ce n'est plus les Chaldéens, ça va être les Perses. Les Perses arrivent en 539. On a l'édit de Cyrus. Vous avez au British Museum à Londres le rouleau couvert d'écriture. Qu'on appelle ça là, les cunéiforme, hein, de l'écriture cunéiforme, et on voit que Cyrus a l'intention de libérer les peuples qui étaient détenus, qui étaient exilés à Babylone. Hein, donc un grand espoir. Et l'année suivante, les Israélites reviennent en Terre Sainte, reconstruisent Jérusalem, et le Deutéro-Isaïe se situe juste au seuil de ce moment-là. Hein, vous connaissez bien le Deutéro-Isaïe, une voix crie dans le désert, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Hein, voilà. Consolez, consolez mon peuple, hein, dites que sa faute est expiée. Hein, voilà, le Seigneur va montrer sa miséricorde. Voilà, les exilés reviennent à Jérusalem, le prophète Agée, hein, et le prophète Agée soutient l'espérance de ceux qui reconstruisent le temple, et vous avez le Trito Isaïe, hein, qui suit le Deutéro Isaïe, qui lui va parler de Jérusalem reconstruite, que vous connaissez par cœur.
Trito Isaïe, hein. C'est le troisième.
C'est le troisième. Et si je vous dis, debout, resplendis, voici ta lumière, toutes les nations hein, viendront vers toi. Hein, c'est important. Voilà, les chameaux de Saba. Alors ça, il y a le psaume aussi, les trésors de Saba. Voilà, tout ça, c'est le troisième, splendeur de Jérusalem reconstruite. Voilà. À ce moment-là, tout l'Orient est dominé par les Perses. On parle de la période perse. C'est un mot technique. Hein, si vous voulez montrer que vous êtes bon en Bible, alors vous ne le ferez pas, mais dans les salons. Mais oui, chère madame, évidemment, la période perse. J'en étais, bien sûr, la période de l'exil. Enfin, ça fait, voilà. Hein, vous maîtrisez bien tout ça, période perse. Hein. C'est une période, là aussi, qui a toute sa richesse, qui est très, très, très stimulante par rapport à tout ce qui s'est fait. La domination des Perses est pacifique, très intéressant, hein, cette civilisation perse. Hein, en Iran, hein, il y a encore, les Iraniens sont encore marqués par cette civilisation perse. Alors là, c'est vraiment un très grand raffinement dans la pensée, dans la religion, hein, le zoroastrisme, hein, alors c'est postérieur, mais voilà. Désormais, il n'y aura plus de roi en Israël, mais des gouverneurs installés par les Perses. Hein. Mais les Israélites, cette fois-ci, ils ont compris. Hein, chat échaudé qui craint l'eau, je sais pas quoi, enfin voilà. Hein, j'ai oublié les. Voilà, donc ils sont échaudés, ils craignent l'eau, ils disent ok, nous n'aurons plus que des prêtres, on n'aura plus de roi. Hein. Et ce sont les familles sacerdotales qui exercent le pouvoir, qui organisent la vie du peuple autour de la Torah, hein, la loi de Moïse. Hein. C'est de cette époque qu'on parle, à cette époque qu'on constitue le judaïsme. Hein. Pourquoi ? Parce que ceux qui ont été déportés à Babylone, ce sont les habitants du territoire de Juda. Voilà, les Judéens, les Yehoudim. Les Yehoudim, donc on dit les Yehoudim. Quand ils reviennent à Jérusalem, on dit ce sont les Yehoudim. C'est avec eux, les Yehoudim, les Judéens, que la religion d'Israël va se reconstituer. Pour ça qu'on parle, on se met à parler des Juifs. Hein? Yehoudim, Yudayoy en grec, Juif. Voilà. Donc, toute la fixation des règles de la vie juive, évidemment, il y a des prêtres. Or, les prêtres, ils sont là pour vous empêcher de vivre, pour vous mettre plein de règles, vous dire faut faire comme ci, comme ça. Non, je plaisante un peu, mais il n'empêche que les règles hein, qui fixent le judaïsme, en fait, il y avait un enjeu, c'était que l'expérience difficile du rapport avec les nations a dit à Israël, ben, il faut bien qu'on ait des marqueurs qui permettent de nous définir qui sommes-nous au milieu de toutes ces nations. Hein. Donc c'est là qu'il y a toutes ces règles, le Shabbat, les règles du mariage, on ne se marie que entre juifs, les lois alimentaires, la cacheroute, hein, la circoncision, etc. Hein, la prière au temple, etc. Hein. Et c'est ça qui permet à Israël de survivre. Hein. Israël s'en est rendu compte à Babylone, au milieu de toutes les nations qui avaient leur dieu, Israël disait, nous on a la loi de Moïse. On a un Dieu unique. Donc, ils se rendent compte. Alors, très intéressant au niveau de l'histoire de la Bible, ce moment-là. Parce qu'il y avait bien des traditions qui circulaient. Mais en exil, les Juifs, qui étaient esclaves, ou ils aimaient notre trésor, c'est la loi de Moïse, il ne faut pas qu'on l'oublie. Voilà. Et là, on va constituer un corpus de textes, c'est le noyau du Pentateuque, des cinq livres de la Bible. Hein. Et la période perse, c'est vraiment le moment où on va voir émerger hein, ce phénomène de la constitution d'un, on parlera plus tard d'un canon, hein, en tout cas d'un livre de la Bible. Voilà, hein, les scribes et les prêtres vont mettre par écrit les textes gardés par la tradition. Hein. Israël doit garder mémoire hein, de ce qu'il a reçu de Moïse pour savoir qui il est. Alors, ça, je crois que c'est assez clair. La période perse, période où Israël se constitue autour du temple, autour des prêtres, avec ses règles, dans une période assez pacifique. Le danger, comme toujours, comme c'était un peu le cas avec Salomon, c'est de s'endormir et de se replier sur soi. Hein? Or, Israël ne doit pas oublier qu'il a une mission qui avait été donnée dès le début, c'était d'être une bénédiction pour toutes les nations païennes. Israël se replie sur lui-même en étant conscient de ce qu'il est. Hein? Et c'est à ce moment-là qu'on a un auteur, quelqu'un qui va écrire le livre de Jonas. Jonas, c'est le prophète qui représente Israël. Le Seigneur dit à Jonas, va dire à Ninive qu'elle se convertisse parce qu'elle aussi est appelée au salut. J'ai pas envie. Hein, j'ai suffisamment mes malheurs, j'ai suffisamment avec moi-même. Il va dans le sens inverse. Et puis, connaissez la suite, et finalement, Ninive va se convertir. Et à ce moment-là, Jonas dit, il n'est pas content. Hein. Et va le Seigneur, il dit, tu vois, moi je suis là pour... C'est le Dieu de miséricorde qui se révèle. Donc il y a la perspective missionnaire. Hein, Israël ne doit pas oublier. C'était le problème de la période perse. Hein. C'était notamment un problème autour du mariage avec les étrangers, etc. Voilà. Cette période, de, on peut dire, d'approfondissement spirituel pendant l'exil et au retour d'exil, est l'occasion pour Israël de se rendre compte que si les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées comme il l'aurait voulu, il n'empêche que Dieu s'est montré un Dieu fidèle. Dieu a ramené Israël sur sa terre. Dieu a permis à Israël de reconstruire le temple. Israël est toujours là. Dieu est fidèle à sa promesse. Et donc, les Israélites, les Juifs, se disent, eh bien, ces promesses de Dieu vont connaître un accomplissement plus grand encore que ce que nous pensions au départ. C'est le moment où les prophètes, alors ça, il faut bien le comprendre, c'est très très important, c'est le moment où les prophètes vont parler de l'avenir. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, on a surtout parlé des prophètes comme ceux qui rappellent à l'obéissance à la loi. Or, le prophète, ce n'est pas d'abord celui qui annonce l'avenir, mais il va se mettre à le faire au moment de l'exil et au retour d'exil. Parce que les prophètes ont montré à Israël comment Dieu était fidèle à sa promesse. Donc, la prophétie va se porter sur le futur, elle va se teinter d'apocalyptique. Hein, ça veut dire l'apocalypse, ça veut dire la révélation de ce qui était caché dans l'histoire. Hein. C'est l'époque de l'attente messianique avec Zacharie, hein, Malachie et puis Joël qui annonce le jour du Seigneur. Voilà. J'accélère parce que on arrive bientôt au terme et l'histoire aussi s'accélère. L'histoire aussi s'accélère. Parce que vous avez un bélier, si je ne me trompe pas, un bélier qui arrive en cavalant et en bousculant tout sur son passage. Ce n'est pas moi qui prends l'image du bélier, c'est le livre de Daniel. Ce bélier, c'est Alexandre. La rapidité d'Alexandre. Il faut reconnaître que quand on lit l'histoire d'Alexandre, c'est saisissant. Hein, entre son départ de Macédoine, la bataille d'Issos, d'Arbel, etc. Et puis il arrive en Égypte en passant sur son passage par Israël. Ensuite, il va aller vers la Mésopotamie, vers l'Indus. C'est absolument saisissant. La Bible le raconte, le livre de Daniel raconte l'arrivée d'Alexandre comme une espèce de tornade, d'un éclair, quelque chose d'impressionnant. Et c'est vraiment, ce n'est pas qu'une image. C'est-à-dire que pour Israël, ça a été un bouleversement inimaginable, tout à fait nouveau. C'est la première fois que Israël était confronté à une culture totalement nouvelle. Israël, déporté à Babylone, mais Babylone, c'était une culture qu'on appelle sémite, donc avait le même ensemble de le groupe linguistique, il y avait les mêmes langues, et il y avait l'environnement cananéen n'était pas éloigné du monde de Babylone. C'était la même ère, ce qu'on appelle l'Orient ancien. Même à Babylone, il y avait de la nouveauté. Même les Perses, il y avait un certain nombre de points communs dans le vocabulaire, dans les représentations. Mais les Grecs, là, il y avait vraiment une rupture. Dans le mode de pensée, dans la langue, dans le mode de politique, etc. Donc pour Israël, ça a été un choc très très difficile, très très violent à assumer. Très très violent. une espèce d'ouverture à un autre monde. Donc toutes les institutions vont être bouleversées, d'autant plus que les Grecs ont une politique assez agressive. Alors comme les Grecs, c'est des Européens et que nous, on est en Europe, on dit bah, les Grecs, c'est la civilisation, c'était merveilleux. Hein. Et puis Babylone, ils étaient très cruels. Bah, pour Israël, c'est pas comme ça que ça, c'est plutôt le contraire. Hein. Ceux qui étaient cruels, c'était les Grecs. Hein, il y avait un gouvernement qui était très dur, je rentre pas dans les détails, hein, mais les Grecs ont voulu helléniser. Ben, c'est un peu l'idée universaliste de la Grèce. Je fais un peu des raccourcis, mais l'Occident aujourd'hui, c'est ça. On veut qu'on va te demander au monde de se mettre un peu comme nous. Alors les Juifs, ils disent non, on veut garder nos traditions. Et ça va se cristalliser et ça va éclater avec une guerre, la guerre des Maccabées, où les Juifs protestent contre Antiochus Épiphane qui va profaner le temple de Jérusalem. Victoire des Juifs dans cette guerre des Maccabées, victoire militaire, mais défaite culturelle. Parce que fort de leur victoire, les rois qui vont être remis en place, ce qui n'est pas sans danger, comme on l'a vu, ils vont remettre, pour garder leur indépendance face aux Grecs, ils vont avoir des rois de la famille des Maccabées, justement, hein, mais pour mener leurs affaires politiques, eh ben, ils vont se mettre au rythme des rois de toutes les nations. Et ça devient des rois tout à fait hellénisés. On voit ça quand on va en Terre Sainte, hein, les palais hein, des dynasties de cette époque, c'est exactement le mode de vie des Grecs à ce moment-là. Donc vous voyez que c'est un choc qui est culturel et donc religieux. Hein, parce que, évidemment, le paganisme revient de façon très très profonde. Alors vous avez un prophète qui intervient à ce moment-là, qui s'appelle Daniel, hein, qui écrit pour soutenir ceux qui veulent rester fidèles à la loi, hein, qui se fait l'écho de ces graves problèmes. Voilà. Alors ensuite, il y a cette dynastie qu'on appelle les Asmonéens, hein, avec des tensions très vives à l'intérieur du peuple d'Israël, du peuple juif, et ces tensions vont se résoudre avec une faction du peuple juif qui va dire aux Romains, venez nous aider, parce que ça se passe pas bien du tout. Et les Romains, assez admirables, une civilisation tout à fait impressionnante, ils arrivent, ils disent, vous voulez vraiment qu'on vienne? Ah, oui, oui, venez. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Peut-être pas, mais venez. Très bien, on vous aura prévenu. Ils viennent. Ils ont eu une domination beaucoup plus pacifique que les Grecs, mais assez intraitable dans le fonctionnement des institutions. Et là, on est au seuil du Nouveau Testament. On connaît la suite avec le Nouveau Testament. Alors, je termine. Tant pis, on a un peu débordé, mais c'était prévu. Ce soir, c'était très dense. Ancien et Nouveau Testament. Vous verrez, ce sera 3 points. J'espère que ce sera suffisamment clair. Pas vous perdre. Donc là, il n'y aura plus de date. Il y aura plutôt une question théologique. Tous ces prophètes qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament, quel est leur rôle? Pourquoi lisons-nous les prophètes dans le Nouveau Testament? Je retiens 3 fonctions des livres prophétiques. 3 fonctions. La première, bien sûr, c'est qu'ils ont un rôle unique dans l'histoire de la révélation. Ils nous permettent de discerner la venue de Dieu, la venue du salut. C'est les écrits des prophètes, l'enseignement des prophètes qui permet de dire... la Vierge concevra, le serviteur souffrant, voici que je vais envoyer mon messager dans le temple, quand il viendra, c'est que moi-même je vais venir vous visiter, etc. Hein. Et de façon tout à fait significative, c'est un prophète, on peut dire le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui s'appelle Jean-Baptiste, hein, qui va désigner Jésus. On n'y pense pas, mais au début, Jésus, il a vécu 30 ans à Nazareth, on n'a pas vu les foules affluer, hein. Les foules ne sont pas affluées, on ne savait pas. Hein. Donc ce n'est pas l'enfouissement, il est là, ça y est, tout le monde se convertit, non. Personne. Et Jean-Baptiste dit, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il dit, c'est lui l'agneau de Dieu. Donc il faut bien la parole du prophète pour désigner Jésus. Jean-Baptiste assume la fonction des prophètes de l'Ancien Testament. Sans le prophète, on ne peut pas repérer Jésus. Voilà. Alors, je passe rapidement, mais il y a tout un jeu sur la figure de Élie. Jean-Baptiste représente Élie, le premier et le dernier des prophètes. Voilà. Il inaugure la prophétie, il la clôt. Je donne des références, c'est un sujet passionnant. Jean-Baptiste comme celui qui termine l'Ancien Testament et qui désigne Jésus, assumant pleinement sa fonction prophétique. C'est ce que dit Jérôme, Saint Jérôme, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ, c'est encore plus vrai des prophètes. Ne pas lire les prophètes, c'est se rendre incapable de reconnaître Jésus. Deuxièmement, les prophètes ont un rôle spirituel, fondamental, pas simplement la révélation en écrivant des choses, mais en transformant les cœurs, en disposant les cœurs à écouter Dieu. Tout l'Ancien Testament, ils veulent ramener Israël à l'obéissance à la loi de Dieu, à la parole de Dieu. Il y a un rôle spirituel, j'en ai beaucoup parlé avec le Deutéronome, avec Jérémie. Ils ont un rôle spirituel. Il faut lire les prophètes parce qu'ils nous bousculent. C'est la parole qui... C'est le sel qui nous empêche de nous geler comme de l'eau. C'est les prophètes, ils ont une parole percutante. Les prophètes, c'est ceux qui viennent nous faire tap-tap-tap à l'épaule en disant « Hé, dispose ton cœur à accueillir le Seigneur. » Et on voit comment le Nouveau Testament, la Vierge Marie, dans le Magnificat, elle est pleine des prophètes. Élisabeth, Zacharie, Joseph, Marie, Simon et Anne ont été formés par les prophètes. Et Jésus dit « Je ne suis pas venu annuler, abolir la loi et les prophètes. » C'est le problème du martionnisme. « Je ne suis pas venu, mais les accomplir. » Et Jésus passe par eux et d'ailleurs, il a en sa faveur le témoignage de Moïse et Élie, les prophètes. Enfin, et nous arrivons à la fin, je vous ai dit d'abord rôle de révélation, ensuite rôle de transformation spirituelle pour être prêt à accueillir le Christ, mais dans un mouvement inverse, non plus de l'Ancien au Nouveau Testament, mais du Nouveau à l'Ancien, les prophètes nous disent la richesse de Jésus. Il y en a tellement en Jésus qu'on ne peut pas se dire juste « je lis les évangiles, ça y est, je sais tout ». Derrière Jésus, derrière chaque événement de la vie de Jésus, chaque mot de la vie de Jésus, vous avez une évocation des prophètes. C'est un peu comme si vous voyez le château de Versailles, vous dites « ben voilà, il y a une pièce, ça représente tout ce qu'il y a à Versailles ». Il dira « ben non, en fait, il y a plein de choses au château de Versailles. Il y a la galerie des glaces, il y a la galerie avec les grandes victoires de France, il y a le parc, il faut tout résumé en une seule formule. Voilà. Mais Jésus, on ne peut pas enfermer Jésus dans une seule figure. Il y a derrière Jésus, il y a du Jérémie, il y a du Élie, il y a du Isaïe. Il y a toutes ces figures prophétiques. Et de fait, la foule ne se trompe pas. Il est le grand prophète. À plusieurs reprises, je vous ai donné des références, on voit en lui un prophète. Il partage leur sort. Le prophète, c'est celui qui s'engage pour la parole de Dieu. Le prophète par excellence, c'est Moïse. Jésus est celui qui va donner la Torah, la loi nouvelle, sur la montagne. La montagne des Béatitudes. C'est le prophète qui doit venir dans le monde, Jean chapitre 6. Il faut donc étudier chaque prophète pour voir un des aspects du visage de Jésus qu'on ne peut pas faire entrer dans une seule formule. C'est vraiment le danger chez les chrétiens qui disent « Ah, mais c'est bien, l'évangile, ça suffit. » J'y... Non, tu passes à côté de toute une richesse que Jésus portait à l'intérieur. Le cœur de Jésus était rempli par toute l'histoire des prophètes. Voilà. La différence entre Jésus et les prophètes, c'est que le prophète était porteur d'une parole. Jésus, lui, il est cette parole. Et il s'identifie à la parole qu'il porte. Il est lui-même la parole. Il est à la fois le prophète et la parole énoncée par le prophète. Il est les deux en même temps. Et c'est ça la nouveauté de Jésus, et c'est la raison pour laquelle, avec Jésus, il y a quelque chose d'indépassable. C'est comme ça que le pape Benoît XVI commence sa grande biographie de Jésus à partir du texte du Deutéronome. « Je vais vous envoyer un prophète comme Moïse, qui est entré dans l'intimité de Dieu, mais évidemment, avec Jésus, la parole coïncide avec celui qui la transmet. »
C'est le Verbe de Dieu.
Il est le Verbe dont toute la vie et porteuse hein, de la parole. Voilà. Malgré tout, même si on a pris un peu de retard, je vous l'avais annoncé, la fois prochaine, ce ne sera pas le cas. Est-ce qu'il y a une question qui vous brûle? Il ne chante pas encore les complis. Oui?
Dans les compagnons d'Emmaüs, il y a Jésus qui parle de la loi des prophètes.
Exactement. Alors ça, on pourrait, dans le Nouveau Testament, et spécialement chez Saint Luc, qui est un grand spécialiste de la lecture de la Bible, hein, Luc, c'est l'évangéliste qui met en scène la lecture de la Bible, il y a une mise en scène de on ne reconnaît pas Jésus ressuscité, il faut passer par les prophètes, mais les prophètes, ils vont passer dans le cœur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et les prophètes, ils parlent au cœur. Et les prophètes parlent au cœur des disciples d'Emmaüs. Je me méfie aussi, ça c'est des choses qu'on a souvent aujourd'hui chez les chrétiens qui retrouvent une vigueur dans la foi, qui disent c'est évident, l'évangile, c'est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Si c'était si évident, tout le monde y croirait. Il faut refaire l'itinéraire spirituel avec Jésus qui va toucher notre cœur à l'écoute des prophètes pour dire mais bien sûr, il y a une évidence qui vient du fond du cœur et là la foi elle est profonde. On n'est pas dans un truc formel où Jésus va s'imposer. Hein. Mais il y a le détour par la Torah, Moïse et Élie, hein, la loi et les prophètes. Ça ira? Voilà, ça fait beaucoup. Bonne. Voilà. Ben écoutez, si vous n'êtes pas assommé, j'ai pas réussi à vous assommer. On se fait une heure de plus.
Voilà. Bonne soirée. Alors la prochaine.